Oh, mikir sepastil.
Mikir sepastil.
Oh, mikir sepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 13 février 2025. On commence sans plus tarder par la première grève nationale du secteur du jeu vidéo. C'est aujourd'hui, ce jeudi 13 février, que ça aura lieu, donc pour la première fois. Elle se lance cette grève à l'initiative du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Montpellier ne sera pas en reste puisque le secteur y est très représenté avec un piquet de grève devant les locaux de l'entreprise Ubisoft. Le journal Le Point, avec un G à la fin, a discuté avec Clément Montigny, qui est délégué syndical du STJUVI, donc le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, pour l'antenne montpelliéraine de l'entreprise, et il explique un petit peu le comment et le pourquoi de cette mobilisation. Déjà sur le syndicat, il explique que ce syndicat a 8 ans, que la grève nationale découle donc de 8 années de lutte et de constats partagés partout sur le territoire, à savoir des retards de production qui sont liés à des mauvaises décisions de la part des directions, des chefs qui n'écoutent pas leurs salariés, des risques psychosociaux élevés et notamment des risques de burn-out ou des salaires trop bas. Le mouvement syndical se structure donc depuis l'automne, explique le syndicaliste, et notamment avec une grève qui a déjà eu lieu à Ubisoft. Ils se sont organisés à distance, hein, via des canaux numériques pour mutualiser tract et visuel, car c'est difficile de se mobiliser dans ce secteur où il peut y avoir de fortes pratiques anti-syndicales de la part des directions. C'est aussi pour ça, dit-il, qu'on le fait que maintenant, que ça ne se passe que maintenant au bout de 8 ans d'expérience. Il a le souvenir d'un panneau syndical qui était pourri par un message « Faites des jeux, pas la grève », par exemple, ou de directions qui ont recadré des salariés qui avaient partagé, par exemple, des messages de soutien à la Palestine. Il y a quelques années, dit-il, on n'aurait jamais pu le faire, mais maintenant, on est suffisamment structuré avec 23 sections syndicales un peu partout en France. Pour ce qui est des revendications, il y en a 4 principales, donc pour cette grève dans le jeu vidéo. La première, c'est la fin des licenciements et le maintien des emplois. Il rappelle que pendant le Covid, les gens étaient chez eux, avec un pouvoir d'achat donc assez conséquent. Ils ont consommé beaucoup de jeux vidéo, donc l'industrie a fait beaucoup de chiffres d'affaires. Mais quand tout est revenu à la normale, les directions ont décrété que le secteur était en crise, car pour lui, ils ont fait n'importe quoi avec l'argent. Donc aujourd'hui, il y a des plans de licenciement un peu partout. Dans cet même ordre d'idées, la deuxième revendication liée à cette grève, c'est justement la transparence sur les comptes des entreprises, pour savoir ce qui est fait de l'argent et des bénéfices. Nous voulons, dit-il, plus de démocratie en entreprise pour que les salariés puissent participer au processus de décision. Et enfin, nous demandons une amélioration de nos conditions de travail. Il y a une vraie crise, et notamment autour de la santé mentale des salariés dans le secteur. Le syndicaliste donc Clément Montigny continue en disant que s'il y a des négociations suite à cette grève, ils iront négocier. Mais on veut surtout faire passer un message clair. On ne fera plus de cadeaux et on est prêt à judiciariser de plus en plus les questions liées aux droits des salariés. Dernière question du journaliste, quelle est la situation localement, donc pour l'entreprise Ubisoft de Montpellier? S'il y a des licenciements prévus ailleurs, nous, répond le syndicaliste, on est épargné pour l'instant. Mais il parle d'enjeux de santé mentale et il le voit à Ubisoft Montpellier qu'il y a de plus en plus de gens venant les voir donc au syndicat pour des burn-out ou pour saisir le comité social d'entreprise sur ces questions. Il y a des problèmes de management, de harcèlement et des gens pour qui le travail n'a plus de sens. Voilà, aujourd'hui donc un piquet de grève est organisé en ce moment même devant les locaux d'Ubisoft Montpellier et de nombreux autres sites en France. Et une caisse de soutien, une caisse de grève est disponible. Elle a été montée pour soutenir les salariés du studio Dontnod qui se sont mobilisés récemment contre des licenciements. Elle est disponible sur le site Helloasso, association syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. On part aux États-Unis où les scientifiques états-uniens doivent désormais bannir tout un lexique environnemental ou social de leurs travaux de recherche, Tout cela sous peine de risquer la perte de financement. C'est un basculement quasiment dystopique hein, qui est en train de se vivre et qu'il raconte stupéfait. Je n'arrive pas à croire que j'écris ceci depuis les États-Unis. Ce sont les mots d'Alessandro Rigolon, ce 10 février, qui parlait sur le réseau social Blue Sky. En effet, pour conserver une subvention, ce professeur en urbanisme à l'université de l'Utah doit maintenant supprimer le mot « climat » du titre de ses travaux. C'est un petit aperçu de la liste du vocabulaire interdit dressée par le président Donald Trump. Le 29 janvier, en effet, à Washington, son secrétaire au transport a autorisé une série de mesures visant à abroger les politiques, disent-ils « woke », des politiques qui ont été portées sous l'ère Biden. En clair, l'ordre est donné aux agences fédérales d'identifier et d'éliminer tous les programmes, politiques, activités, règles et ordres qui promeuvent l'activisme climatique. Et les accords de financement de la recherche n'échappent donc pas à cette épuration. On se croirait vraiment dans un bon bouquin dystopique. Leur plan est d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les mots et les contenus interdits dans tous les projets financés par le gouvernement fédéral, poursuit ce chercheur Alessandro Rigolon. Il précise avoir été averti par mail qu'il est désormais déconseillé d'inclure dans une demande de subvention des mots comme « changement climatique », « émissions de gaz à effet de serre » ou « justice environnementale ». C'est le nom donné à ce mémorandum, c'est l'abrogation woke. Il ne concerne pas d'ailleurs uniquement le secteur de l'écologie. Les questions également d'équité raciale, de genre, de diversité ou d'inclusion figurent maintenant dans la liste noire du républicain climato-dénialiste. Sur le réseau social Blue Sky, qui est une alternative principale au réseau social X appartenant à Elon Musk, des scientifiques de tout domaine témoignent donc maintenant de leur stupéfaction. Par exemple, Darby Saxby, qui est professeur en psychologie à l'Université de Californie du Sud, publie une liste de près de 120 mots-clés à bannir, qui vont de préjugés jusqu'à femmes. Pour des chercheurs en psychologie, ça va être compliqué. Le document lui a d'ailleurs été transmis par un responsable de la National Science Foundation. C'est une agence dotée de 9 milliards de dollars par an qui sont destinés à soutenir la recherche scientifique et qui font donc passer maintenant ces consignes. Il est impossible, explique cette professeure, de concevoir une étude sur les humains sans utiliser au moins un des termes qui figurent sur la liste des interdictions. Cela signifie que la recherche biomédicale, la recherche sociale et les neurosciences sont désormais gelées aux États-Unis. Pour elle, il s'agit d'une vraie guerre contre la science. D'après un document interne qui est cité par le Washington Post, les demandes de subventions qui n'entrent pas en conformité donc avec ces décrets feront l'objet de mesures supplémentaires. En d'autres termes, elles pourraient être soumises à des modifications ou à des résiliations partielles, voire totales. Une chercheuse, sous couverte d'anonymat, a par ailleurs raconté au journal The Guardian qu'elle a dû emprunter de l'argent à ses parents pour pouvoir payer son loyer, suite justement à l'annulation de son financement. Le journal anglais, donc Guardian, précise qu'un juge de la cour du district de Washington a émis le 3 février en novembre une ordonnance de restriction temporaire qui bloque la mise en place de ces gels. Donc tous les États n'appliquent pas de manière automatique, en tout cas, toutes ces demandes. Au-delà donc de frapper l'argent, le portefeuille, cette chasse aux sorcières du milliardaire new-yorkais consiste aussi à supprimer toute référence donc à la crise climatique depuis les sites internet fédéraux. Que ce soit de la Maison-Blanche au ministère de la Défense, des onglets qui étaient autrefois consacrés à la question affichent désormais le message d'erreur, erreur 404, not found, voilà, page n'existant plus. Doctorant à l'université Duke, Tyler Norris a ainsi remarqué la suppression de ses travaux sur l'interconnexion des réseaux électriques qui avait été publié initialement sur le site du ministère de l'Énergie. Une façon pour l'administration Trump de s'éviter toute concurrence dans la promotion des combustibles fossiles et même son cloche pour le climatologue David Ho qui est en quête de travaux sur les cycles du carbone océanique et qui dit « J'aimerais bien avoir ne serait-ce qu'une estimation de ce que toutes ces données perdues ont coûté aux contribuables pour être développées et ce qu'elles nous coûteront à l'avenir en raison de leur absence. » Ce sont les mots de Mitt Crosby, qui est chercheur en docteur en biologie à l'Université de Washington. Pour elle, il s'agit d'un vol aux proportions astronomiques. La bataille débute à peine, prévient dans les colonnes du Guardian Gretchen Gerke de l'Environmental Data and Governance Initiative. C'est un réseau de surveillance indépendant. Nous devons nous attendre à une nouvelle campagne massive de suppression d'informations.
Une dictature, comme vous y allez.
Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
Des nouvelles du monde. Une petite brève, une étude qui a été relatée dans les colonnes de Libération qui s'intéresse aux réseaux sociaux avec une étude néerlandaise et qui révèle que plus un parti est à droite, plus il va diffuser des fake news. La désinformation en ligne fait partie intégrante de la stratégie des extrêmes droites, tandis que, selon cette étude, les formations de gauche, que ce soit radicale, écologiste ou même social-démocrate, ont moins recours à cette pratique. C'est une étude récente qui vient d'être réalisée par des universitaires néerlandais. Et selon eux, donc, les populistes d'extrême droite sont bien de loin ceux qui propagent le plus de fake news sur Internet. La désinformation fait même partie intégrante de la stratégie de communication de cette force politique, affirme l'étude. Une étude qui a été publiée dans The International Journal of Press Politics. Cette étude a analysé 32 millions de messages postés sur Twitter, désormais X. Et le document se base donc sur l'analyse des tweets qui ont été publiés entre 2017 et 2022 par tous les députés qui possèdent un compte X dans 26 pays. Donc on parle de députés, hein, pas de militants de base. Dans ces pays d'ailleurs, il y a 17 membres de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Italie ou la Suède, mais aussi le Royaume-Uni, la Turquie, les États-Unis, le Canada ou l'Australie. Au total, donc ça fait à peu près 8200 parlementaires qui ont vu tous leurs tweets passer à la moulinette. Et ensuite, eh ben, les infos qu'ils ont rediffusées sur ces plateformes ont été recroisées avec des sites de fact-checking pour donc isoler les fake news des infos plus ou moins concrètes en tout cas. Et le résultat est donc sans appel.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Allez, on part maintenant dans les Alpes de Haute-Provence où les opposants à un projet ont pour l'instant eu des bonnes nouvelles. C'est un projet de panneaux solaires porté par Engie Green, la filiale verte de Engie, qui devait se tenir sur 12,7 hectares dans une forêt des Alpes de Haute-Provence du côté de la montagne de Lure. Eh bien, elle vient d'être abandonnée. En effet, ce projet a subi deux revers de la justice et du conseil municipal. Le reportage est à relire dans les colonnes de reporters qui se sont rendus sur le village de Haulongle dans les Alpes de Haute-Provence. Isabelle Bourboulon se réjouit. C'est une opposante donc à ces centrales solaires dans la montagne de Lure. C'est une affaire qui va faire réfléchir les petits maires démarchés par les fournisseurs d'électricité, dit-elle. En effet, c'est la municipalité du village de Haulongle qui, de guerre lasse, a fini par mettre fin au projet d'Engie Green lancé il y a 10 ans. Haulongle, c'est une petite commune de 360 habitants du côté de la montagne de Lure. Ce projet donc a été lancé il y a 10 ans et ce 10 février, donc, le conseil municipal n'a pas renouvelé la promesse de bail pour le fournisseur d'énergie qui prévoyait d'implanter donc des panneaux solaires sur presque 13 hectares. Pour les écologistes, c'est donc une victoire significative dans une région où des multinationales de l'énergie projettent d'installer jusqu'à 1000 hectares de photovoltaïque sur des zones naturelles ou agricoles à travers différents projets. Pour Isabelle Bourboulon, donc qui est journaliste et aussi membre du collectif local pour sauver la forêt de la Seigne, on assiste à une industrialisation de la ruralité. La décision de ce conseil municipal est d'autant plus importante qu'elle suit un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille qui pourrait faire jurisprudence. Il a été pris ce 31 décembre dernier et cet arrêt annule l'autorisation de défrichement qui était attribuée par la préfecture et donc nécessaire à la poursuite, enfin au démarrage des travaux. Tout cela donne raison à nos positions, se réjouit aussi Pierre Lavoie, qui est porte-parole de l'association Les Amis de la Montagne de Lure, Amis Lure, à l'origine de cette procédure au tribunal. Pour bien comprendre ce dossier de la forêt d'Haulongle, la cour administrative s'est d'ailleurs déplacée début décembre sur place, sur proposition du rapporteur public. C'est très rare et c'est une démarche notable, qui a été mise en pratique en tout une vingtaine de fois seulement depuis 10 ans. Ce dossier, en effet, explique que la juridiction ne permettait pas à lui seul d'apprécier correctement la situation du projet dans son environnement, puisqu'il y est question aussi de destruction du paysage, et donc il fallait qu'il puisse se rendre sur place pour confronter les arguments des uns et des autres avec la réalité. Ce sont donc 19 personnes du tribunal administratif de Marseille qui se sont déplacées dans les Alpes de Haute-Provence, sur place, des juges, le rapporteur public, les avocats, les représentants des partis et leurs spécialistes de la forêt, mais aussi la sous-préfète et les représentants de l'ONF, Office National des Forêts. Voilà, tout le monde est parti pour une petite randonnée dans les bois. Que ce soit Engie Green ou Amis Lure, donc les deux parties, chacun cherchait à convaincre les juges du bien fondé et se souvient avec humour un des opposants. C'était comme une pièce de Shakespeare, dit-il, avec des conversations dans tous les coins. D'ailleurs, le journal Reporter s'est aussi rendu sur place en compagnie des membres donc, de l'association Amis Lure opposée au projet. Ils ont visité eux aussi la forêt de Seigne à la mi-janvier de cette année. Et ils se sont rendus compte avec un retraité de l'ONF qui fait partie de l'association que ce sont des pins remarquables et d'après lui, il faut aller dans la montagne corse pour en trouver des équivalents. Les couper, donc couper ces pins, ce n'est pas donc du pin, du jeune pin, ce sont des vieux pins, une jolie forêt. Eh bien, les couper menaceraient une zone humide selon ce forestier. Cette zone humide est située en contrebas de la forêt, dans le fond du vallon, sur 32 hectares. Et elle présente un caractère exceptionnel pour un climat méditerranéen. Si on supprime la forêt, on supprime le réceptacle d'eau qui alimente la zone humide, explique donc ce retraité de l'ONF. Dans les motivations, la cour administrative d'appel a donc pu noter ses arguments et elle a également retenu une atteinte au bien-être de la population. En particulier donc pour la question des paysages. Ces paysages qui sont formés d'une mosaïque de prés, céréales, lavandes, oliviers et dominés par des villages perchés. Des paysages qui font la réputation de la Haute-Provence. L'introduction d'éléments artificialisants, donc des champs de panneaux solaires et banalisants, conduirait à les dénaturer, précise la cour administrative. Et pour elle, les enjeux vis-à-vis du tourisme sont donc considérés là comme très forts. Le chemin de grande randonnée, le GR de la montagne de Lure, traverse en effet toute la zone sur laquelle le projet devait se développer et aurait dû être déplacé. Donc le GR aurait dû être déplacé. La maire du village, Maryse Blanc-Ventre, explique pour sa part avoir découvert l'existence de la zone humide seulement au cours de la procédure. Elle plaide d'ailleurs maintenant pour sa mise en valeur au moyen de panneaux de médiation, mais explique et se plaint que la commune seule ne pourrait pas les financer. Et que là, quand on engage le débat financier de comment valoriser la zone humide, il n'y a plus personne. Elle se sent un petit peu seule. Donc la maire du village, qui avait dû à l'époque, qui avait validé le projet photovoltaïque, aussi certainement contre la promesse de pas mal de contreparties nécessaires à sa commune. En effet, comme beaucoup d'autres, cette commune rurale manque de recettes. Et donc la maire défendait ce projet d'Engie Green, qui était selon elle raisonnable pour une superficie restreinte. Le loyer que projetait de donner Engie, c'est 10 000 euros par hectare et par an. Et les atteintes au paysage pour la mer semblaient maîtrisées. Mais pourtant, la cour a constaté une visibilité directe du projet depuis le site classé de l'ancien village médiéval de Vierre, qui est en face dans la vallée, dont la mer valorise aussi le patrimoine. Voilà, jusqu'à ce que le conseil municipal donc, vote pour l'arrêt du bail, Engie Green envisageait toujours un recours devant le Conseil d'État pour contredire donc, la décision de la cour d'appel du tribunal de Marseille. Mais maintenant que la mairie s'est rangée de cet avis-là, Engie explique prendre acte de la décision et étudier les suites possibles à y donner. Recontacté donc, suite au conseil municipal, pour l'instant, elle n'a pas souhaité ajouter de nouvelles précisions. Et dans ce reportage que vous pouvez trouver donc dans les colonnes du journal Reporter, on voit des photos de la forêt et aussi des banderoles qui ont été pendues dans les arbres par les opposants. On peut y lire par exemple ce slogan « Du solaire sur les toits et pas dans les bois ».
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout ton milieu rural aussi ?
Aux États-Unis, à peine ses plaies pansées, la Californie et la ville de Los Angeles s'apprêtent de nouveau à affronter les extrêmes climatiques. Aujourd'hui et demain, une tempête hivernale exceptionnelle doit s'abattre sur la Californie dans l'ouest des États-Unis. Les habitants ont donc commencé à se barricader avec des milliers de sacs de sable et des barrières de béton qui ont été disposées pour limiter l'érosion du front de mer. Des autorités qui préconisent de se tenir prêts à une évacuation d'urgence encore. Fragilisés bien évidemment par les incendies du mois de janvier, qui ont tué une trentaine de personnes, les sols risquent de faire ruisseler l'eau plus rapidement. Des inondations, donc, ainsi que des coulées de boue qui peuvent dégénérer en glissement de terrain sont à craindre. Nos services municipaux sont en état d'alerte, déclarait ce 11 février Karen Bass, la maire de Los Angeles. En 3 jours, le sud de l'État pourrait peut-être recevoir jusqu'à 15 cm de précipitation par endroit, d'après les services météo des États-Unis. La région n'avait pas enregistré de pluie significative depuis 8 mois. Et en effet, c'est la sécheresse hivernale qui avait grandement favorisé les énormes incendies du mois dernier. Pour ce qui est de la tempête qui arrive, elle est due à une rivière atmosphérique, explique l'AFP. Autrement dit, un gigantesque couloir de pluie qui transporte de la vapeur d'eau emmagasinée dans les tropiques, notamment autour de l'archipel d'Hawaï. On reste aux États-Unis où rien ne va plus hein, face à l'envolée du prix des œufs. Les Américains se lancent en masse dans l'élevage de poules. Ça fait suite au rebond d'une épidémie de grippe aviaire. Des millions de poules pondeuses ont été euthanasiées, tuées. Et conséquence, le prix des œufs s'est envolé, déboussolant les consommateurs qui sont habitués à débourser peu pour cet aliment de base. Avec l'envolée donc du prix des œufs aux États-Unis, les négociants en animaux de ferme ont constaté une augmentation, une explosion même de leurs ventes de poules pondeuses, puisque certains Américains accueillent maintenant des volailles chez eux pour produire eux-mêmes leurs œufs. C'est John Berry, qui est gérant d'une entreprise justement de vente de volailles notamment, qui explique avec son entreprise basée à Houston au Texas qu'il a récemment écoulé 100 poules en 4 jours, ce qu'un nombre atteint normalement en 3 semaines. Et pour lui, donc, les ventes de volailles ont presque triplé. Les exploitations avicoles ont en effet été durement frappées par le rebond de l'épidémie de grippe aviaire qui sévit depuis 2022 aux États-Unis. C'est ainsi plus de 21 millions de poules pondeuses qui ont dû être euthanasiées depuis le début du mois de janvier à cause de cet épisode aussi de grippe aviaire, selon les chiffres du ministère américain de l'Agriculture. Plus de 13 millions de ces poules sont ainsi mortes en décembre. Conséquence, le marché a fait son œuvre, le prix des œufs s'est envolé, ce qui a déboussolé des consommateurs qui étaient habitués à débourser peu pour l'aliment de base. Aujourd'hui, dans certains supermarchés, la douzaine d'œufs dépasse les 10 dollars. Ça fait à peu près 10 euros. Pour les œufs de qualité supérieure, on est à 6 dollars pour la douzaine d'œufs plus basiques. Et pour d'autres magasins, les rayons sont carrément vides, pénurie. Le marchand de poules John Berry explique que la plupart de ses nouveaux clients donc sont des novices en matière de poules pondeuses. Dans le reportage, on rencontre Arturo Becquera qui a récemment acheté 10 poules pour 400 dollars. Il explique qu'avec l'augmentation du prix des œufs, il s'est dit que ça serait moins cher d'acheter des poules et de les élever. C'est un Mexicain de 57 ans qui vit à Houston. Avec un œuf par poule et par jour, je serais bien, estime-t-il. Mais si tout le monde voulait faire pareil, eh bien, ça va falloir un petit peu de temps pour qu'il y ait assez de poules. Puisque pour remplacer les millions de poules tuées à cause de la maladie, il aurait fallu anticiper cela et élever des milliers, voire des millions de poules supplémentaires, explique l'éleveur. Une nouvelle génération prendra bien la place de celles qui ont été perdues, mais cela prendra du temps. En gros, 2 ou 3 mois, voire plus, avant que les choses ne rentrent dans l'ordre. Et ce John Berry recommande aux consommateurs de faire des réserves d'ici là. Or, prendre des poules chez soi n'est pas anodin, c'est ce qu'avertissent les autorités sanitaires, puisqu'aux États-Unis, le virus de la grippe aviaire, on l'a compris, circule dans les élevages de volailles, chez les oiseaux sauvages, mais aussi maintenant chez les vaches laitières. Si le risque de transmission du virus est pour l'instant faible envers le grand public, il est plus élevé pour les personnes qui sont exposées aux oiseaux sauvages, aux volailles et aux vaches, selon le CDC, le Centre de prévention et de lutte contre les maladies. Un premier décès humain lié à une grippe aviaire a eu lieu en janvier, c'était en Louisiane. Il concernait un homme âgé qui souffrait d'autres pathologies. Il aurait été infecté suite à des contacts avec des oiseaux de basse-cour et des oiseaux sauvages. Au total, près de 70 cas ont été détectés chez les humains depuis le début de l'année 2024. Pour la grande majorité, ils se sont révélés malgré tout bénins.
Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, on termine avec des animaux qui nous veulent du bien, les castors, qui font parfois mieux que les humains. C'est en République tchèque, au sud de Prague, qu'une colonie de 8 castors seulement, ont construit en 2 jours un réseau de barrages à l'emplacement exact où un projet de barrage était en cours depuis 7 ans. L'objectif du barrage fait par les humains était de revitaliser un tronçon de rivière qui servait autrefois de terrain militaire pour le transformer en zone humide. Mais à cause de lenteur administrative, tout ça restait dans les cartons et donc le chantier était au stade quasiment zéro. Eh bien les castors, visiblement impatients de profiter de cet aquapark naturel, ont fait le boulot à la place des humains. Et ainsi, en l'espace de 2 nuits, à la fin de ce mois de janvier, les riverains ont pu observer les premières constructions à base de pierre, de boue et de bois. Au résultat, les rongeurs bâtisseurs ont fait économiser 30 millions de couronnes. Ça représente 1,2 million d'euros pour les contribuables et les autorités locales. Et l'agence tchèque pour la conservation de la nature s'en réjouissait dans un communiqué publié ce 11 février. A noter aussi qu'il existe d'ailleurs toute une école de gens qui veulent revitaliser des parties de cours d'eau en imitant justement les techniques des castors. Et visiblement, ça marche très très bien puisqu'ensuite la nature, notamment les courants des rivières, font le boulot tout seul en plaçant le sable, les pierres. Et ensuite, la nature reprend très très vite ses droits. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Allez, c'est sur ces pensées bucoliques que je vous abandonne. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.